on en parle.
Tension,
incompréhension,
addiction,
évolution,
explication, on en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45
sur LFM. Bonjour à tous, c'est Manon sur LFM Radio, il est tout juste 11h et vous écoutez On en parle, l'émission qui décrypte les phénomènes de société chez les jeunes. On est déjà à quelques semaines de la fête de la musique et si certains ont déjà tout prévu, vous êtes probablement beaucoup à attendre la dernière minute pour savoir quoi faire. En tout cas, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde en Ile-de-France, que ce soit dans votre commune pour ceux qui travaillent le lendemain, mais aussi sur Paris pour ceux qui peuvent s'enchaîner une nuit blanche en attendant les premiers métros. Bref, la fête de la musique nous donne aussi et surtout l'occasion de parler de culture et d'accès à la culture. Alors qu'est-ce qu'on définit par le mot culture et qui est le plus touché par son manque d'accès? Parce que si depuis une vingtaine d'années on peut observer comment l'art et la culture permettent de revaloriser des quartiers, ainsi que les habitants en valorisant un petit peu les diversités sociales, ethniques et culturelles, il y a encore beaucoup d'écarts d'accès à la culture en France. Il est vrai qu'à l'heure où trop souvent la diversité est justement considérée comme source de problèmes, hein, il est aussi important de comprendre pourquoi elle est importante, mais pas que. Comme vous le savez, dans On en parle, on essaye toujours d'apporter des solutions et c'est pour cela que nous parlons notamment des différents dispositifs mis en place par le territoire des Yvelines. Et pour cette émission, j'ai donc le plaisir d'accueillir dans On en parle Malik Suarez, auteur, compositeur et interprète. Bonjour Malik Suarez.
Bonjour.
Malik Suarez, vous avez développé le projet Quasar depuis 2018. C'est un projet qui vise à introduire le monde artistique à des jeunes enfants placés via la création d'un spectacle. C'est donc un projet qui réunit différentes disciplines telles que la danse, la musique, le théâtre, les arts numériques, en collaboration avec des chercheurs en sciences sociales et des professionnels de l'enfance.
Exactement.
On en parlera un petit peu plus tard.
Merci.
Si vous êtes aujourd'hui avec nous, hein, c'est pour illustrer notamment l'importance de la culture et particulièrement en tant qu'espace de parole et d'expression. Et à ses côtés, nous avons également Éric Delafoy, directeur de la culture, du tourisme et des sports au département des Yvelines, qui vient notamment intervenir sur les différentes solutions et dispositifs mis en place par le département pour permettre aux jeunes un meilleur accès à la culture. Bonjour Éric Delafoy.
Bonjour.
En tout cas, merci à tous les deux d'être venus chez LFM Radio pour participer à cette émission. Je me suis dit que déjà pour commencer, ce serait intéressant de dire ce qu'on entend par le mot culture. Donc j'ai donc demandé à Marie-Lucie, 16 ans, d'interroger ses amis sur la définition de culture. Donc on va s'écouter ça tout de suite.
Bah, déjà pour moi la culture c'est un peu l'école, par exemple l'histoire et tout. Et c'est aussi les voyages, les musées et certains films.
Pour moi ça va être la musique, aussi l'histoire du pays. Par exemple l'histoire de la France, ça va être la culture de la France. Après il y a le sport, le patrimoine, parce que par exemple pour les Jeux Olympiques, c'est intéressant qu'on voit les différentes cultures de chaque pays qui vont être représentées par certains athlètes.
Moi, je pense principalement que ce soit les musées, parce qu'il y en a dans chaque pays et ça raconte un peu leur histoire et l'histoire du pays qu'il y a eu. Et aussi des personnes importantes de l'histoire. Et je pense aussi surtout le cinéma aussi, parce qu'à travers les films, on peut raconter un peu la culture, tout ça. Et puis voilà.
Qu'est-ce que tu aimes bien faire, toi, comme activité culturelle?
En fait, je faisais de la natation, mais mon club, il a fermé. Mais j'ai déjà fait de la vannerie, mais c'était chez mon papy, c'était un stage.
Est-ce que de toi-même, tu irais voir des spectacles, par exemple, où tu fais pas du tout ce genre d'activité?
Avec ma famille, si, mais tout seul, j'envisagerais pas ça.
Ouais, ça te plaît pas?
Je vais te dire un exemple. Par exemple, pour l'oral de français, on a eu un oral blanc et j'ai regardé une pièce de théâtre pour justement, parce que c'était l'œuvre que j'avais choisi. C'était Les Fausses Confidences et j'ai bien aimé. Mais après, je me serais pas dit, de mon plein gré, je vais aller au théâtre.
Et si, est-ce que tu irais à des pièces de théâtre, mais de stand-up par exemple?
Ouais, ça j'irais plus.
Pour moi, ça a un sens hyper large. C'est la musique, c'est les chants, l'histoire, c'est la religion d'un pays, c'est des loisirs que tu peux faire pour t'enrichir. C'est parfois des films, c'est la littérature. Enfin, c'est ce qui peut servir à évoluer. Et la culture, elle est faite pour évoluer.
LFM Radio 95.5.
Alors, on se retrouve juste après ce micro-trottoir. Éric Delafoy, quelles sont vos réactions à l'écoute de ces jeunes et comment est-ce que vous définiriez la culture?
Déjà, il y a la dernière intervention, je trouve, qui est pour moi la plus intéressante quand la jeune fille dit que la culture, c'est une tradition qu'on fait évoluer. C'est un petit peu notre vision des choses au département. On est très axé sur la valorisation du patrimoine qui fait partie de la culture. Et le patrimoine un peu dans tous ses états, la culture vivante, mais aussi le patrimoine bâti, le patrimoine immatériel, tous les souvenirs un peu des différentes migrations, par exemple, ça fait partie de la culture. Et tout notre arrière-fond culturel qu'on a dans les Yvelines évolue et donc n'est pas figé. Donc moi, ma définition de la culture, c'est une dynamique à la fois collective, comme le disait la jeune fille, cette tradition qu'on fait évoluer. Et puis, la culture, c'est vraiment un levier d'inclusion, de participation, de développement de la personne et surtout de la participation de cette personne qui se développe à la société, on va dire, au devenir ensemble collectif.
Et vous, Malik Suarez ?
Écoutez, je crois que toutes les interviews là étaient assez justes. Moi, je rajouterais, ou en tous les cas, pour faire la synthèse, je pense que ça permet de s'émanciper surtout d'une condition, et notamment quand on est jeune, on a plein de choses autour de nous qui nous attirent et qui nous permettent à la fois de nous cultiver, mais surtout de s'émanciper en fait. Ça, c'est vraiment essentiel, je crois.
Merci en tout cas pour vos deux réponses hein, qui sont pour moi, je trouve, très complémentaires. C'est vrai que la culture regroupe énormément de choses. En sociologie, en anthropologie, le terme culture, ça permet de décrire deux choses. La première, ce sont les pratiques dans le domaine des loisirs, comme l'art, le cinéma et la littérature, par exemple. Et c'est principalement ce dont on parle aujourd'hui sur LFM Radio. Mais la culture, c'est aussi les pratiques quotidiennes, hein, comme les façons de manger, de s'habiller ou encore de faire du sport. Donc son accès permet aussi effectivement une émancipation et puis ça se construit partout finalement. Alors malheureusement, il y a un peu une échelle sociale et culturelle créée par le type de culture qu'on consomme, donc de l'opéra et du ballet classique au rap et au hip-hop, chacun sa culture selon d'où on vient. Mais du coup, cette échelle, elle s'accompagne souvent de jugements de valeur sur ce qui est bien de consommer, ce qui l'est un peu moins, etc. Enfin, certains jeunes ont l'impression que la culture, c'est quelque chose d'un peu inaccessible. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Delafoy ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces jeunes ?
Que la culture, elle est accessible pour peu qu'on ait envie d'y accéder aussi. Nous, on fait en sorte que le tissu culturel soit dynamique, propose des choses, mais on sait très bien que les jeunes eux-mêmes aussi ont un pas à faire vers la culture, et donc on n'est pas dans une démarche où il y a une offre et puis des gens qui attendent passifs. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment, comme le disait Malik, c'est l'émancipation. Ça part d'une dynamique aussi personnelle. On a un tissu culturel dans les Yvelines qui est très riche, qui est très diversifié, qui n'est pas on va dire, localisé. Il va à la rencontre de son public. On a énormément d'actions qu'on appelle hors les murs, ou en tout cas les structures vont à la rencontre de ces jeunes. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, étant donné les tarifs qui parfois peuvent être importants, surtout au niveau culturel, il y a quand même beaucoup de dispositifs d'aide. Il y a l'État au travers du Pass Culture, mais le département aussi met une aide directe pour tous les jeunes de 12 à 18 ans qui leur permet d'accéder à la culture quand même plus facilement, et donc de faire baisser le prix d'entrée, entre guillemets, de cet accès à la culture. Mais les associations eux-mêmes et les structures ont toute une palette de tarifs qui permet d'avoir un accès à la culture, parfois gratuit. Donc pour moi, il faut regarder vraiment le coût de la culture, et il n'est pas si élevé que ça quand on s'appuie sur des dispositifs de ville ou du département ou de la région.
Et les dispositifs, on en parlera justement en deuxième partie. Malik Suarez, c'est quoi votre avis sur la question ?
Alors, moi, je ne suis pas trop sur l'aspect financier, évidemment. Ça, c'est plus généralement les institutions qui sont à cet endroit-là. Ce que je peux dire en tant qu'artiste et par rapport aux structures avec qui je travaille artistique, c'est... J'ai entendu ce que vous disiez sur les difficultés à pouvoir accéder à de l'opéra ou à des formes de théâtre qui sont plus classiques. Je crois que aujourd'hui, les structures artistiques et les artistes essayent de mêler les arts et surtout de s'intéresser à la jeunesse. Donc, dans cette idée-là, à la fois ils vont à la rencontre du public, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est aussi aux jeunes de venir s'y intéresser, parce qu'il y a un effort qui est fait, et aussi parce qu'on trouve ça intéressant aussi de multiplier les disciplines, les rencontres disciplinaires. Aujourd'hui, l'opéra, c'est plus juste de l'opéra tel qu'on l'imaginait il y a 30 ans. Il y a d'autres formes qui sont tout aussi intéressantes et qui sont peut-être plus accessibles à des jeunes qui aujourd'hui sont baignés par les réseaux sociaux, le numérique, on va dire. Donc il faut s'intéresser à ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de formes artistiques très, très différentes. Et donc ne pas se restreindre en se disant, on ne peut pas voir de l'opéra parce qu'on est jeune, ou on ne peut pas voir du théâtre classique parce qu'on est jeune. Il y a énormément de formes qui le permettent aujourd'hui.
Et c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, il y a énormément de films maintenant d'ailleurs qui mélangent différentes disciplines. Hein, ceux qui mélangent le hip-hop et la danse classique par exemple, il y a tellement de films sur le sujet. C'est bien de mélanger justement les différentes disciplines, même si on a l'impression qu'il y a des disciplines qui sont un peu inaccessibles et d'autres qui nous conviennent parce que c'est ce dont on a l'habitude. Et justement, vous, Malik Suarez, avec votre projet CASA, vous avez un peu cassé les codes, hein, si je puis dire, puisque vous avez directement travaillé avec des jeunes placés. Mmh. Et que ce que je trouve personnellement génial dans votre travail, c'est que vous avez travaillé directement avec eux, avec leur culture, mmh. avec leurs histoires personnelles, pour les amener vers une culture qu'ils ne connaissaient à la base pas trop, hein, le monde artistique, le théâtre, etc. Vous le dites d'ailleurs au cours d'une précédente interview, hein, que les enfants s'imaginaient un peu du Molière quand on leur parlait de théâtre, et puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le cas.
Oui, oui, c'est vrai, mais moi aussi j'ai grandi dans le cadre de l'ASE, ce qui était la DAS à l'époque, et j'ai bien vu, enfin, je l'ai vécu et expérimenté. J'avais aussi un frein à aller vers la culture, mais il y avait aussi un frein qui était simplement l'ASE, qui était, c'est compliqué quand on est un enfant de l'ASE de pouvoir bénéficier de l'offre culturelle du territoire. C'était comme ça il y a 30 ans, ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui, mais il y a des nouveaux dispositifs qui sont créés pour ça, notamment avec le département des Yvelines, avec le théâtre par exemple du collectif 12 avec qui j'ai travaillé sur ce projet-là, et d'autres structures, l'usine à chapeau aussi à Rambouillet. Donc après, c'est d'un point de vue artistique, c'est à nous aussi de faire des ponts et d'amener les enfants vers une offre qui soit multiple. Aujourd'hui, on ne peut pas proposer aux enfants simplement du théâtre. On peut leur proposer du théâtre, de la danse hip-hop, de la danse contemporaine, des arts numériques, parce que la majorité des enfants aujourd'hui ont des téléphones et ne savent pas forcément s'en servir, ils vont sur les réseaux et tout ça, mais en fait il y a tellement de choses à faire avec les téléphones. Et donc c'est un peu ce qu'on leur a proposé, donc on leur a proposé cette petite boîte à outils artistiques avec de la danse, du théâtre, des arts numériques, de la musique, et à l'intérieur on leur a dit: qu'est-ce que vous voulez faire? Et à partir de ça, on a commencé à créer. Donc c'est un travail qui a pris à peu près 9 mois en 2018-2019. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut amener la culture à ces enfants-là, qui sont un peu invisibilisés par la société, mais du fait de la condition sociale dans laquelle ils sont. Et je crois que c'est aussi au monde artistique de s'intéresser à ces enfants-là, d'aller les chercher à cet endroit-là, d'aller chercher les directeurs et directrices de structures en leur proposant, parce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place à la fois par le ministère de la Culture, par la région, par les départements, pour que ces enfants puissent en bénéficier. Donc après, c'est aussi aux artistes et aux compagnies d'aller à leur rencontre, quoi.
Voilà. D'aller les chercher, exactement. Est-ce que vous avez été surpris un petit peu, justement, vous disiez que vous demandiez un petit peu aux enfants ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que vous avez été surpris de ce qu'ils voulaient faire, justement ?
Oui, oui, j'ai été assez surpris. Enfin, de toute façon, ces enfants sont surprenants, en fait. Déjà, c'est des gosses, donc ils ont une imagination débordante. La question, c'est comment on essaye de canaliser un peu cette imagination, d'en faire quelque chose, de leur dire que, bah, en fait, toute proposition est bonne à prendre. Après, évidemment, on est dans un cadre, et c'est aussi ça, l'expérience de la vie. On essaye de cadrer un peu les propositions des enfants de manière à faire un objet artistique dont ils puissent être fiers aussi. C'est aussi ça, la culture, c'est valoriser aussi une expérience pour ces enfants-là. Et d'autant plus quand on sait la difficulté des enfants placés à pouvoir être vus dans le monde et se sentir aussi vus dans le monde et d'une autre façon que simplement des cas sociaux ou des choses comme ça. Voilà.
Et écoutez, du coup, parce que ce Exactement. Que vous leur proposez, c'est un espace de parole
Exactement.
Et d'expression.
Complètement. Ça a été un point très important. Alors j'ai la facilité, je ne vais pas dire la chance parce que ça n'a pas vraiment été une chance, mais j'ai été un enfant placé, donc je connais bien la problématique dans laquelle il se trouve. Donc on avait aussi cet espace de discussion. La culture, c'est pas simplement transmettre de la culture, mais c'est aussi être à l'écoute de l'autre, pouvoir accueillir une parole, la transformer, de leur dire: voilà, t'es en colère, mais tu peux faire quelque chose de cette colère, et elle est légitime, cette colère. Donc comment si t'as pas envie de faire de la danse à partir de ça, c'est pas très grave, tu sais qu'il y a les arts numériques, tu sais qu'il y a le théâtre, tu sais qu'il y a la musique, et quand bien même t'aurais pas envie de faire ça, on peut faire autre chose. L'idée, c'est aussi de leur permettre ça, d'être le plus ouvert possible, d'accueillir leurs paroles, d'en faire quelque chose, et je pense que c'est une manière pour eux de s'émanciper indéniablement, il y a un passif qui est extrêmement lourd à porter pour ces enfants. Ils sont assez jeunes, généralement. Ce qui se passe dans leur vie est compliqué. Donc déjà, d'en parler en dehors du cadre institutionnel, c'est extrêmement important, puisqu'il y a une parole qui est nécessairement plus libre. Et forcément, elle donne lieu à des choses assez, assez belles, en fait. Dès lors qu'ils comprennent que cette parole, moi, je ne l'analyse pas. Je ne suis pas éducateur, je ne suis pas psychologue. J'essaie simplement de la transformer, de leur dire, on va essayer de faire quelque chose à partir de ça. Et j'espère que tu seras heureux et content du résultat. C'est le cas, heureusement, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais ça a été le cas, oui.
Oui, et puis justement, ça permet aussi à ces jeunes d'apprendre à exprimer un petit peu ce qu'ils ressentent.
Complètement.
Parce que ce n'est pas forcément... Le cas, parfois, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vraiment appris à parler de leurs émotions, etc. Et l'art, ça permet vraiment de véhiculer des émotions.
Complètement, et c'est même essentiel, je pense, dans ces structures qu'est l'ASE, parce que même si l'aide sociale à l'enfance essaye au maximum d'accueillir la parole de ses enfants, mais elle est toujours scrutée, analysée, mais c'est leur travail, au fond. Je peux pas vraiment critiquer ça. Ils sont là, ils sont psy, ils sont... Mais ce dont on parle, c'est de petits-enfants. Donc que cette parole soit accueillie et que analysée, parce qu'il y a des juges pour enfants et qu'il y a des procédures compliquées qui sont mises en place, c'est une chose. Mais à côté, il faut aussi que ces enfants ils puissent parler très librement, que cette parole elle puisse être transformée et qu'ils puissent en faire quelque chose. Ça permet de ne pas nourrir non plus une animosité face au monde, parce que c'est très compliqué, et aussi de l'ASE aussi. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens enfants placés
qui ne sont pas en colère
contre à la fois l'aide sociale à l'enfance, qui est indispensable, hein, je le rappelle, elle est vraiment indispensable, mais on peut faire mieux. Et là aussi, c'est aussi aux gens du tissu culturel de se montrer et de dire, nous aussi, on peut faire quelque chose en fait, à cet endroit-là.
Alors, pour contextualiser un peu plus, justement, est-ce que vous pourriez nous résumer de quoi parle le spectacle Quasar ?
Alors, le spectacle Quasar, ça parle de jeunes enfants qui sont donc dans un foyer et qui un jour en balade découvrent un vaisseau spatial. Dans ce vaisseau spatial, il y a une intelligence artificielle qui se trouve avoir eu il y a très très longtemps un peu la même histoire qu'eux, mais au début ils ne savent pas. Et il leur propose de faire un voyage dans l'espace. Alors ils le suivent.
Il n'y a pas d'âge pour très heureux de partir dans l'espace. Partager.
Et cette intelligence artificielle, elle a un vrai problème, c'est qu'elle n'a plus d'émotions. Elle a troqué ses émotions parce que la vie était trop compliquée sur sa planète. Et c'est au fil du voyage que les enfants vont lui réapprendre ce que c'est que les émotions. Donc aimer, la peur, la colère et tout ça. Et au fond, à travers ce dispositif-là, il nous parle d'eux, les enfants. Et donc c'était
aimer,
créé
partager,
aussi dans ce cadre-là de narration. La possibilité d'accueillir la parole de ses enfants et d'en faire quelque chose.
Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Aimer,
alors, en parlant de votre spectacle, on va s'écouter les bandes annonces. Hein, parce que, bon, pour contextualiser, Quasar, ce n'était pas juste un projet comme on en parlait. Comme vous le disiez, c'est devenu un spectacle avec de nombreuses représentations. Vous avez eu beaucoup de représentations ces dernières années.
Disons qu'avec le Covid, on va dire que c'était beaucoup. Parce qu'il y en a qui s'en sont moins bien sortis que nous. Mais ça reste quand même très difficile.
Pour apprendre, aimer, partager, sanitaire
n'a pas aidé. Voilà.
Donc c'est un spectacle que vous avez monté avec plusieurs enfants placés de différents foyers de Mantes-la-Jolie à la base. C'était l'idée d'origine.
Et
l'espace d'accueil, c'était justement le collectif 12.
Histoire
exactement.
Et
on embrasse bien fort, on pense à eux. Donc on va s'écouter les bandes annonces de votre spectacle.
L'émission qui lit ancienne et nouvelle génération, histoire et avenir.
Activation du protocole de conscience, NALIC Process. Vous vous trouvez à bord du vaisseau interstellaire Quasar, dont je suis le capitaine. Je m'appelle M. Alik. Vos consciences humaines ont été greffées au corps robotique que vous possédez désormais. Dans ce magnifique processus, quelque chose s'est malheureusement égaré.
L'ambition de M. Alik est simple. Il veut nous faire retrouver ce que nous avons perdu. Nos émotions humaines. Il a fait jadis un voyage en compagnie d'autres passagers, des enfants, pour développer les siennes. Il veut que nous fassions le même voyage.
T'as des parents ?
Oui, je crois, mais je ne m'en souviens plus vraiment.
Depuis quel âge tu ne les as pas vus, tes parents ?
C'était il y a longtemps. Et toi, à quel âge as-tu quitté tes parents ?
6 ans.
Silhouette, angoisse, les cratères. lune, minuscule colossal, ignorant l'infortune, les planètes bleues azur se déplacent sans un bruit. Il y a ce que l'on voit, il y a ce que je suis.
Il y a ce que l'on voit, il y a ce que je suis. Je pense que ça résume beaucoup le projet aussi de Quasar, non ?
Oui, c'est vrai, c'est juste. Ouais.
Ça donne beaucoup d'émotions. Je pense que ça doit être un spectacle plein d'émotions avec les voix des enfants et la musique que vous avez vous-même composée et créée.
Oui, complètement.
Et comment vous est venu ce projet, justement ? Qu'est-ce qui vous a motivé à le développer ?
L'une des raisons, c'est que j'ai été aussi un enfant placé. Ça fait longtemps que je travaille avec à la fois des compagnies et que j'ai ma propre compagnie et que je travaille beaucoup autour de ces questions-là, de l'errance, de la difficulté sociale. Et cette fois, j'avais vraiment envie de me confronter à ce problème-là. Donc, je suis allé chercher moi mon dossier de l'aide sociale à l'enfance pour comprendre ce qu'avait été mon enfance d'enfant placé. Et puis j'ai contacté des chercheurs en sciences sociales pour comprendre plutôt ce qu'il y avait de commun à tous les enfants placés. Et l'une des phrases dont je me souviens que Isabelle Frochon, qui est chercheur en sciences sociales, m'avait dit à la fin de notre entretien, c'est la majorité des enfants placés disent qu'ils ont le sentiment de jamais avoir été écoutés. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, tu peux pas simplement faire un spectacle sur l'enfance placée en te mettant tout seul en scène. L'idéal, ce serait quand même d'aller voir des enfants placés d'aujourd'hui. Et donc ce qui était intéressant, c'était, moi je suis leur potentiel futur, ils sont mon passé. Et donc la narration du spectacle pouvait se faire à partir de ce schéma, on va dire. Et puis aussi, je me disais que ça serait quand même très 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 chouette et très beau d'offrir à ces enfants des activités artistiques pendant toute une année. Il se trouve que les enfants qu'on a pris sur ce projet venaient tout juste d'être retirés à leurs parents, donc ils étaient dans des foyers d'accueil d'urgence pour des durées de 4, 5, 6 mois, et puis après ils partent vers d'autres foyers ou des familles d'accueil. Donc il y a une espèce d'itinérance des enfants qui est assez compliquée, et c'est généralement assez compliqué de pouvoir poursuivre sur une année des ateliers avec ces enfants. Donc on a mis en place des transports, on allait chercher des subventions, on a eu des prix pour pouvoir justement organiser cette itinérance des enfants. Et donc de pouvoir faire ça démontre déjà que c'est possible de le faire. Alors ça demande pas mal de fonds et de financement. D'ailleurs, le département des Yvelines, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce projet aussi, c'est qu'il y avait un appel à projet à destination des publics empêchés. Le collectif 12 m'a proposé de le faire et à partir de là, j'ai pu construire tout le projet avec d'autres aides et subventions. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont réussi finalement à bien s'imbriquer. Il y a une des difficultés aussi, c'est que l'aide sociale à l'enfance, c'est très compliqué de pouvoir rentrer dedans. Moi, je peux y aller puisque je connais assez bien les codes. J'ai aussi cette expérience de l'enfance placée, donc j'ai pu être aussi accueilli par des professionnels de l'aide à l'enfance qui étaient bienveillants à l'égard de ce projet. Et puis, il faut aussi l'avouer qu'ils ont permis que ce projet existe, en fait. Hein. Ils ont vraiment appuyé ce projet-là, tout le département, la région, le ministère de la Culture. Donc voilà.
Éric Delafont, on développera un peu prochainement en deuxième partie les différentes solutions proposées par le département des Yvelines, notamment le Pass Plus. Mais je pense que d'abord, il serait important de comprendre quels jeunes sont vraiment visés par ces projets des Yvelines. Parce que là, on a pu voir Malik Suarez qui travaille directement avec des jeunes souvent exclus culturellement. Mais quels autres jeunes sont les plus touchés par ces difficultés d'accès à des pratiques culturelles ?
Alors, dans les Yvelines, je vais faire un peu de statistiques. Il y a jusqu'à 25 ans, de 0 à 25 ans, il y a un quart de la population des Yvelines. Et sur ce quart, donc, qui représente près de 370 000 jeunes, il y en a plus de la moitié, 52%, qui habitent en quartier poétique de la ville. Donc ça représente 40% en fait des jeunes de 0 à 25 ans qui habitent nos quartiers poétiques de la ville, qui sont plutôt très concentrés dans le nord et l'est du département. Et c'est là où est notre cible, en fait. Hein. Nous, le département, on a des publics dits prioritaires. Donc Malik a évoqué longuement les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, évidemment, puisque c'est notre, notre compétence départementale de s'occuper de ces jeunes. Mais il y a aussi tous les jeunes en situation de handicap aussi, puisque l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie, est une des compétences aussi du département. Donc voilà, donc notre cible, elle est vraiment sur les collégiens, qui sont aussi un public prioritaire chez nous, puisque nous nous occupons des collèges avec l'éducation nationale. Collégiens, en quartier politique de la ville, les jeunes en situation de handicap, à peu près 6000 jeunes dans les Yvelines quand même. Donc voilà, toute cette population, c'est vraiment notre cœur de cible pour la culture, sachant que les communes s'occupent des petits-enfants, de l'école élémentaire, primaire, et que les lycées sont davantage pris en charge par la région. Donc nous, on se concentre vraiment sur ce segment-là, et c'est pour ça qu'on a mis en place le Pass Plus, où on va un petit peu au-delà, puisqu'on va jusqu'à 18 ans, mais on prend les jeunes à l'entrée en 6e et on les accompagne culturellement. C'est l'aide la plus importante en France au niveau culturel, hein, puisque un jeune boursier va toucher 100 euros par an pour pratiquer des activités culturelles ou sportives, hein, c'est à son choix. Il peut mélanger les deux, évidemment. Et donc, si vous calculez bien, un jeune peut avoir 700 euros d'aide de 12 ans jusqu'à 18 ans. Donc, c'est quand même important. Il peut cumuler cette aide avec le Pass Culture de l'État.
Et alors, on y reviendra justement en deuxième partie pour le développement des différents passes. Est-ce qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient touchés ou c'était...
Non, c'est vraiment la cible prioritaire pour nous. C'est les collégiens, les jeunes en quartier politique de la ville, les jeunes issus de l'assistante de l'aide sociale à l'enfance et puis les jeunes en situation de handicap. C'est vraiment notre cœur de cible. Donc tous nos dispositifs sont plus ou moins tournés vers ces jeunes-là.
Et justement, on parlera aussi en deuxième partie de comment vous travaillez aussi avec les associations et puis les différents appels à projets, etc. En tout cas, pour cette première partie d'émission, on va conclure ici. Merci d'avoir participé à cette première partie d'émission, Malik Suarez et Eric Delafoy.
Merci.
Avant de se retrouver en deuxième partie d'émission où justement on abordera les différentes actions et solutions, hein, qu'elles soient sur le terrain avec Malik Suarez, que vous venez d'entendre, ou sur le territoire des Yvelines avec Eric Delafoy, qui est, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, le directeur de la culture, du tourisme et du sport, on va s'écouter un classique, hein, d'IAM qui s'appelle « Né sous la même étoile ». Donc restez à l'écoute parce qu'on se retrouve tout de suite après sur LFM Radio 95.5.
Les incontournables de la culture hip-hop s'écoutent sur LFM 95.5.
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW? La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire. Je peux rien faire. Spectateur du désespoir. Je peux rien faire.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de crash, cha 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 de francs, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne. Et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, chiant, à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil, c'est rien, Léa. Si on on était moins scrupuleux. Un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire.
LFM 95.5.
Et on se retrouve sur LFM Radio 95.5 dans l'émission On en parle. Vous écoutez toujours Manon et pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, on parle culture et plus précisément d'accès à la culture. Donc je suis donc en compagnie de Malik Suarez, auteur, compositeur et interprète qui a développé le projet Casar où il travaille la création d'un spectacle avec des enfants placés. Rebonjour Malik Suarez.
Rebonjour.
À ses côtés, nous avons également Éric Delafoy, directeur de la culture, du tourisme et des sports au département des Yvelines, qui vient notamment intervenir sur les différentes solutions et dispositifs mis en place par le département pour permettre aux jeunes un meilleur accès à la culture. Également, rebonjour Éric Delafoy.
Rebonjour.
En première partie, on a pu parler des différents jeunes touchés par le manque d'accès à la culture, mais également à quel point la culture est fondamentale pour leur développement. Et c'est le projet Casar de Malik Suarez qui l'illustre à la perfection puisque les ateliers ont permis aux jeunes d'avoir un espace de parole et un espace d'expression en dehors du foyer. Et finalement, le point qui me paraît le plus important, c'est que ça a un peu changé aussi l'image, comme vous le disiez dans une interview, dénaturée qu'ils pouvaient avoir d'eux-mêmes.
Complètement. C'est vrai qu'ils ont besoin de ça. Parce que voilà, d'être un peu en vase clos, ça permet pas à 18 ans d'avoir une image de soi qui est ouverte, qui permet de s'émanciper. Et puis il faut bien comprendre que ces enfants, ils vivent généralement des drames au sein de la famille. C'est pour cette raison qu'ils sont au foyer. Donc ils ont déjà une image d'eux qui est souvent assez dénaturée parce que je crois qu'ils comprennent pas forcément ce qui se passe exactement. Ils sont jeunes. Souvent c'est des histoires d'adultes et on leur demande d'être adultes très tôt, de comprendre ces choses-là. Et je crois qu'il leur faut quand même un sas de décompression qui leur permette d'avoir une image d'eux différente. Et surtout des acteurs qui soient différents, à savoir pas des gens qui sont de l'aide sociale à l'enfance. Moi j'ai insisté par exemple pour qu'il n'y ait pas d'éducateurs dans ce projet. Qui soient juste au contact d'artistes qui ont des parcours. Alors pour le coup, moi j'avais le même parcours qu'eux, mais j'ai fait intervenir d'autres artistes de Bordeaux, des danseurs hip-hop, qui ont des parcours tout à fait différents, mais qui sont venus leur apporter d'autres choses, qui ont pu leur montrer que on pouvait s'appeler Malik, Booba, passer par l'aide sociale à l'enfance, être musicien professionnel, continuer à espérer, ou en tous les cas continuer à rêver, parce que souvent ils ont des rêves. Mmh. Et puis au fil du temps, on leur dit oui, mais en fait, ton rêve, c'est super, mais il va falloir que tu ailles dans une filière technique parce qu'à 18 ans, il faudra que tu puisses subvenir à tes besoins. Donc moi, ce que j'ai essayé de leur expliquer, en tous les cas, c'est qu'en leur ramenant la culture, qu'il y a beaucoup de possibilités, en fait. Le monde est fait de possibilités. Donc nous aussi, en tant qu'artistes, on doit leur offrir cette possibilité-là.
Alors, il me semble qu'Éric Delafoy, vous vouliez rebondir justement sur le projet Casar et ce qui a été dit en première partie.
Oui, parce que ce projet, le projet de Malik et du collectif 12, pour moi, il est assez, il est efficace entre guillemets culturellement pour un public, qui les jeunes zappent, etc. Mais en fait, c'est une culture de l'hybridation qu'ils ont. Donc, l'approche de Malik, en l'occurrence, et d'autres acteurs dans les Yvelines, de jouer sur des codes aussi de la culture mainstream et aussi de la culture dite classique. Pour moi, c'est une approche qui est tout à fait attendu en fait par les jeunes, et justement ça permet à la proposition culturelle de plaire et d'attirer des jeunes vers elle. On n'est pas d'amener au forceps des jeunes à pratiquer une activité culturelle un peu ils vont rechigner, on va dire. Là, au contraire, ils vont adhérer et en même temps, ça leur offre la possibilité de découvrir des choses beaucoup plus traditionnelles au sens élitiste de la culture, l'écriture, la composition musicale. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment un produit culturel, entre guillemets, hybride, qui est tout à fait dans l'air du temps et qui va permettre aux jeunes aussi, après, d'accéder à d'autres formes de culture dites plus élitistes sur la pratique d'un instrument, sur de l'écriture, etc.
Et mélanger les genres.
Voilà.
Alors justement, depuis que vous êtes en poste, hein, depuis un an et demi, c'est bien ça ?
Oui.
Vous avez notamment permis la mise en place de différents dispositifs, dont celui du Passe Plus. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, justement ?
Le Passe Plus, c'est la volonté des élus du département et du président Pierre Bédier en particulier de donner justement directement la possibilité aux familles et aux jeunes entre 12 et 18 ans de pouvoir choisir aussi eux-mêmes ce qu'ils allaient faire. Et donc le Passe Plus, c'est une aide directe à la famille et aux jeunes individuels de 80€ pour tout le monde et de 100€ pour les boursiers. Donc ça concerne à peu près 150 000 jeunes hein, dans les Yvelines, 75 000 au collège et 75 000 au lycée. On propose aux structures culturelles, en l'occurrence, de s'affilier, donc d'accepter le Passe Plus chez elles. Et l'aide est directement versée en fonction de l'inscription du jeune à l'association ou à l'équipement culturel qui est affilié au Passe Plus. Et on l'a mis en place il y a un an et demi. Et on est un petit peu surpris du succès, en fait, de ce Passe Plus, parce qu'on a à peu près un peu plus de 50 000 jeunes aujourd'hui sur les 150 qui sont déjà inscrits et qui consomment soit du sport, parce que ça concerne aussi le sport et la culture, et on voit que les chiffres ne font que monter, et donc nous on incite vraiment les associations à faire aussi la promotion de ce Passe Plus, parce que l'accès à la culture est un peu plus cher que l'accès au sport, donc c'est souvent un frein aussi à la pratique culturelle, et donc on va continuer dans ce sens-là. Cette année on a prévu de dépenser 3 millions d'euros juste sur ce dispositif Passe Plus, et dans les années à venir, ce dispositif va monter en puissance et va devenir l'aide principale culturelle et sportive du département pour la pratique locale de la culture et du sport. Voilà, ce qui n'empêche pas d'autres dispositifs et d'autres soutiens, mais en tout cas, on tient fortement à ce dispositif qui sera appelé à se développer dans les années.
Alors justement, c'est très important ce que vous dites, parce que pour la rentrée prochaine, ça permet aussi à beaucoup de jeunes de pouvoir accéder à des activités extrascolaires et culturelles, parce que souvent, le budget est un frein hein, pour beaucoup de jeunes à ne pas faire d'activité, et le Passe Plus permet justement ce genre de choses. Vous faites de nombreux appels à projets aussi, vous en avez fait dernièrement. Alors sans dévoiler les projets sélectionnés, parce qu'ils n'ont pas encore été dévoilés, quel type de projet justement vous choisissez dans ce cadre ?
Les appels à projets, ils sont annuels, donc c'est vrai que c'est une difficulté parfois pour les associations de s'adapter à ce rythme-là. Mais là, cette année, on avait fait un appel à projet qui s'appelle « Faire patrimoine ensemble », qui était sur la valorisation du patrimoine, évidemment, historique bâti, mais aussi du patrimoine végétal, puisque le département des Yvelines est un département très vert, et aussi sur le patrimoine immatériel. Donc on a des projets aujourd'hui, sans les citer, mais effectivement, un projet photographique autour de l'urbanisme, parce que ça, c'est un sujet qui nous intéresse en matière culturelle, les transitions urbanistiques. Le département accompagne aussi beaucoup le changement des quartiers, et donc un travail des jeunes photos autour des changements d'un quartier. Mais ça va être aussi une compagnie de théâtre qui va travailler autour du théâtre du XVIIe siècle. Donc ça paraît très élitiste, mais qui va s'adresser à des jeunes de l'ASE ou des jeunes en situation de handicap pour leur permettre de construire des décors et de participer à une pièce qui sera donnée. Donc tous les arts sont concernés. C'est pas un appel à projet. En fait, il y a un thème, hein, le patrimoine, mais cette année qui est très vaste. Mais en tout cas, ça fait appel à toutes les formes d'art. Et ce qu'on attend, c'est l'hybridation un petit peu. C'est ce qu'on attend, c'est des choses inattendues, pas forcément, enfin. qui vont mêler des publics et des pratiques qui ne se seraient pas rencontrées sans cet appel à projet. Donc c'est des appels à projets qui associent des associations culturelles et des instituts médicaux sociaux, par exemple. Donc voilà, donc je ne dévoile pas la liste, mais effectivement, ça va être très divers. Et l'année prochaine, on va certainement faire quelque chose autour de l'Olympiade culturelle pour rapprocher vraiment le sport de la culture, puisque dans 2 ans, nous accueillerons les Jeux Olympiques. Et que les Yvelines seront le 2e département d'accueil après Paris Seine-Saint-Denis. Donc voilà, on aura... un vrai coup de projecteur sur nous, et la culture sera au cœur du projet olympique en 2024.
Justement, j'allais vous demander les projets afin de développer la culture dans les Yvelines, mais vous avez répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Alors, pas d'autres projets, mais en tout cas, on tient toujours à soutenir les festivals. Et les festivals, il y en a énormément dans les Yvelines. Nous, aujourd'hui, on soutient à peu près 15 de festivals par an. Alors sur le Mantois, je vais citer 3 festivals.
Il y en a beaucoup.
Oui, je vais en citer 3 que l'on soutient parce qu'ils ont une portée départementale aussi. Nous, ce qu'on soutient aussi, ce sont des manifestations qui peuvent permettre aux Yvelines aussi de rayonner à l'extérieur des Yvelines. Et donc on a Éole, le festival Éole, évidemment en septembre, qui sera dans sa 4e édition à Mantes. On a un soutien aussi à Blues sur Seine en novembre, et puis on soutient cette année, et on y tient beaucoup parce que justement c'est un exemple d'hybridation, le festival du Cirque des Mureaux en octobre, qui va faire intervenir beaucoup de breakdance à l'intérieur du cirque. Donc voilà, on croit beaucoup, c'est un projet aussi de la vallée de la Seine pour nous, et notre priorité. Pour un tas de raisons, mais c'est vraiment notre priorité en matière culturelle notamment. En termes de soutien aussi, on soutient des associations aussi, pour lesquelles on a cette année décidé de donner un coup de pouce financier, parce que justement elles s'adressent à nos publics prioritaires. Et puis Malik est là pour le collectif 12, c'est une des associations qu'on soutient parce qu'elle traite vraiment des publics dits, ce qu'on appelle les publics du champ social. J'aime pas trop ces termes-là en général, mais voilà, il faut quand même une certaine ingénierie, il faut quand même aussi une volonté pour aller vers ces publics, parce que là, c'est des publics qui sont assez particuliers et qu'on a du mal à toucher. Donc on soutient le collectif 12, mais on soutient aussi l'école des 4 arts, par exemple, sur Magnanville, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie, ou le théâtre du Colombier que l'on soutient, parce que justement ils font ce travail utile de culturel à l'attention de public que peut-être l'école ne touche plus, que les autres institutions ne touchent plus. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est un bras armé culturel pour atteindre ces publics-là.
Et pour la fête de la musique, est-ce que vous aviez des petites propositions à faire ou pas encore ?
Non.
Ça va, il y a encore quelques semaines avant.
Les fêtes de la musique, c'est vraiment des événements municipaux.
D'accord, c'est plus
indépendant. Nous, on soutient, notre doctrine, c'est vraiment de soutenir les communes quand elles nous sollicitent, mais on ne s'immisce pas dans les affaires communales. Donc voilà, la fête de la musique, typiquement, c'est communal.
Malik Suarez, quels sont vos projets personnels en ce moment et puis pour le futur ?
Écoutez, j'ai sorti déjà un livre sur l'enfance placée en lien avec le spectacle Khazar, justement, qui s'appelle « Il y a ce que je suis », qui fait référence au texte que vous avez entendu de la chanson. Donc ça, c'est sorti chez Actes Sud Junior au mois de mars. Et puis, on continue à développer des ateliers Khazar. Cette année, on en a fait en Belgique. Donc c'est bien aussi je voudrais répondre un peu à ce que disait Eric tout à l'heure sur le rayonnement en tous les cas du département. Nous, c'était assez important de pouvoir dire que les enfants qui sont dans le spectacle, on a travaillé dans les Yvelines, on a été soutenus par le collectif 12 qui a permis en fait qu'un projet assez ambitieux et onéreux aussi puisse exister et puisse même rayonner au-delà des frontières de la France pour le coup. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de développer aussi les ateliers Khazar en Seine-Saint-Denis. On va essayer de le faire un peu partout en France. Le spectacle, il est parti en tournée cette année et on espère qu'on aura encore des dates la saison prochaine et celle d'après. Et puis moi, je continue mon travail de création avec d'autres spectacles. Un spectacle avec Agnès Marietta, qui est autrice et qui m'a demandé de monter son texte. Et puis un autre spectacle de danse contemporaine. Et je travaille aussi avec d'autres compagnies, la compagnie Nova de Margot Eskenazi. Donc beaucoup
que
de boulot.
Projets, que de voilà. projets. Alors on arrive justement à la fin de l'émission, on va terminer avec la rubrique On n'en parle pas, hein, où chacun devra dire un petit peu une phrase ou des phrases, une remarque qui l'énerve et qui concerne les jeunes.
All you sticky dirty tramps.
Shut the fuck up.
All the hoes on his dick.
Shut the fuck up.
Alors Éric Delafoy, peut-être vous pourriez commencer. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous énerve un petit peu, que vous pouvez entendre et qui concerne les jeunes?
Oui, c'est justement les jeunes sont zappeurs, les jeunes consomment, etc. Bon, moi, je fais pas partie des nostalgiques ou des gens qui considèrent, voilà. On l'a été aussi, nous, jeunes. Demain, on aura d'autres personnes qui seront jeunes. Je veux dire, ils sont comme ils sont. Ils sont comme on les a fait. Ils sont le produit aussi de la société. C'est à nous de nous adapter. Et donc, du coup, cette culture du zapping, de l'hybridation, elle est loin d'être destructrice aussi. Elle est créatrice de plein de choses. Et donc, c'est à nous d'accompagner ça, en fait. Et c'est juste à nous de leur faire comprendre que le patrimoine de demain, le patrimoine, leur patrimoine, c'est eux qui vont en décider. C'est un consensus de tous les jours. Donc voilà, donc moi ça m'énerve d'entendre ça parce que c'est, même si c'est une réalité, c'est pas une réalité négative et destructrice forcément.
Malik Soares, vous avez hoché la tête.
Oui, je suis complètement d'accord. Je crois que le cœur du problème est là, c'est que on peut pas stigmatiser en fait une population simplement en raison de son âge. En fait, c'est absolument stupide. Ils ont besoin à la fois qu'on leur donne confiance, qu'on leur propose un certain nombre de choses, et ça revient aux adultes en fait. Hein, c'est pas aux jeunes. Mmh. Donc, si on a envie qu'ils s'intéressent, si on a envie qu'ils grandissent, c'est aussi aux adultes de prendre leurs responsabilités, de proposer un certain nombre de choses. Et moi, de ce que je peux voir, en tous les cas, quand on leur propose des choses et qu'on va vers eux, il n'y a aucune raison qu'ils refusent. Je ne connais aucun jeune qui n'ait pas envie de faire ça.
Donc c'est quoi votre phrase, du coup? Est-ce que vous en avez une en particulier?
Non, j'en ai pas en particulier, à part oui, c'est toutes ces phrases de stigmatisation, que ce soit sur la jeunesse des banlieues, sur la jeunesse des beaux quartiers, sur la jeunesse de... Enfin, en fait, toutes ces phrases un peu à l'emporte-pièce, qui m'exaspère beaucoup. Mais je ne saurais pas vous en dire une parce qu'il y en a tellement.
Oui, il y en a beaucoup.
Voilà.
Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
J'espère que cette émission elle sera enrichissante, hein, et aura apporté des éléments de réponse et surtout des solutions pour aider les jeunes à accéder un peu plus à la culture. Si vous écoutez cette émission, n'hésitez pas à commencer à regarder les différents programmes de la fête de la musique, hein, puisqu'ils commencent à être un peu dévoilés un peu partout, que ce soit dans votre ville ou en Île-de-France, il y en a vraiment pour tous les goûts. En tout cas, n'hésitez pas à rester à l'écoute, hein, car de midi à 14h, vous pourrez écouter Akima dans la pause actu. Nous, on se retrouve samedi 11h dans Expression Directe, hein, l'émission qui donne la parole aux 10-25 ans. Et la semaine prochaine, dans On en parle, pour une émission un peu particulière, hein, puisqu'elle portera sur la sensibilisation et la détection de la radicalisation chez les jeunes. Un sujet sensible que nous aborderons en présence de Nathalie Coste, professeure d'histoire en géopolitique à Sciences Po, et avec l'intervention de Asna Hussein, sociologue des médias et du genre, directrice de l'association Prévanet et membre de l'Observatoire de la haine en ligne. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine sur LFM Radio 95.5. Au revoir.
Au revoir.
On en parle.
Tension.
Incompréhension.
Addiction.
Évolution.
Explication. On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45.
Sur LFM.